Et accueillons tout de suite Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
On aime ça parler de tennis. Puis oui. D'ailleurs, je vais te partager. Moi, ma mère, elle manque rien du tennis à la télévision. Puis, tu sais, je dis ma mère, mais avec, c'est étonnant de voir à quel point les gens regardent le tennis. T'sais, on parle souvent des sports d'équipe, là. Mais tu sais, il y a des longues heures à meubler, là. Puis, tu sais, les personnes qui ont du temps, les personnes retraitées ou quoi que ce soit, là, ça pénètre vraiment dans les foyers. Puis, c'est tellement un beau sport à regarder. Mais,
tout à fait.
Excuse-moi, c'est petit entrée en matière, mais je voulais te partager ça. Je le constate dans les conversations. Les gens sont en amour avec Federer, sont en amour avec. Puis, en plus de nos jeunes raquettes qui se développent de façon assez ahurissante. Puis là, ben, il y en a un qui a gagné un match hier qui n'est pas le match de sa vie, là. Mais c'est rassurant de voir Félix Auger Aliassine l'emporter comme il l'a fait hier, parce que s'il y a eu la fièvre Shapovalov cet été, on a comme l'impression qu'il pourrait y avoir un jour une fièvre Félix, hein?
Ah, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, Mario. Moi, pendant la Coupe Rogers, j'ai beaucoup parlé avec les gens de Tennis Canada, que ce soit Louis Borfiga, qui est vice-président au développement de l'élite, que ce soit avec Guillaume Marx, qui est l'entraîneur de Félix Auger-Aliassime, puis qui a aussi un long parcours aux côtés de Borfiga dans le développement de nos meilleurs espoirs. Et je peux te dire une chose, c'est que les espoirs en Félix Auger-Aliassime, ils sont très grands. Tu sais, j'entends encore Borfiga me dire, quand il commentait le parcours de Denis Shapovalov durant cette semaine absolument magique, tout à coup dire, bon, il était évidemment plein d'admiration et de respect pour ce que Shapovalov a accompli et était en train d'accomplir au moment où on a discuté, mais il dit, attention, hein, il dit, Félix Auger-Aliassime, il s'en vient. Et là, je reprends ses mots, il dit, il va vous surprendre. Et je pense que chez Tennis Canada, on est vraiment convaincu qu'on a un joyau de première dimension à Félix Auger-Aliassime. Et là, c'est plate parce que, bon, le tournoi était à Montréal. Il aurait eu l'occasion, lui aussi, de jouer devant ses partisans. Mais bon, il y a cette blessure au poignet. Et ça, une blessure chez un jeune joueur comme ça, c'est toujours inquiétant parce que, bon, on le sait, il y a beaucoup de joueurs de tennis qui ont eu ce type de blessure-là. Ça a été difficile. Et évidemment, la carrière de Juan Martín del Potro en a été marquée par des blessures au poignet. Alors, c'est important de bien soigner ça. Et ce que j'ai aimé, Mario, dans la façon dont Tennis Canada a travaillé ce dossier-là, c'est qu'ils ont choisi la patience. Ils ont dit, écoutez, oui, c'est sûr que c'est une occasion extraordinaire de jouer à Montréal pour Félix Auger-Aliassime, mais il ne le fera pas. Il va prendre du temps, il va se reposer. La blessure, on me l'a dit, n'était pas très grave, mais surtout parce qu'il n'a que 17 ans, on ne voulait pas prendre de chance. Mais là, c'est important de voir comment il allait se comporter à son retour et ça a été une belle victoire.
Mais c'est tellement bon ce que tu racontes, puis il y a des petites décisions des fois qui ont une incidence sur le long terme. Peut-être qu'elle est boiteuse, mais j'ai envie de te glisser une analogie. Un jour, j'assiste à un concert de Céline Dion, qui est en ville d'ailleurs aujourd'hui, c'est pour ça que ça me fait penser à elle.
Ouais.
Et je suis à Sherbrooke, et à la quatrième chanson du concert auquel j'avais amené ma mère, justement, René Angélil embarque sur la scène et met fin au spectacle. Il dit, c'est terminé pour ce soir, problème de voix, et on mise pas sur... tu sais, c'est la carrière de Céline, on mise pas ça sur... Là, c'est pas là, c'est un long projet, puis là, on est bien des années en avant, là, on est dans la salle Maurice O'Brady, là, on est pas au Centre Bell, là. Tu sais, mais te dire, tu sais, je me souviens pas de l'âge exactement, puis de l'année, mais c'est ce genre de décision-là que les gens qui ont de la vision doivent prendre pour leurs artistes ou pour leurs athlètes.
Oui, tout à fait. Et René Angélil, là, il prenait, oui, soin de la voix de Céline Dion. Okay, écoute, moi, je me souviens, on se souvient tous, évidemment, de Céline qui a chanté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Atlanta en 1996.
Oui.
Écoute, le chanter à ce moment-là devant quoi? Devant...
The power of the dream.
Oui, c'est ça, devant 2 milliards ou 1 milliard, en tout cas, peu importe, mais un nombre hallucinant de téléspectateurs, et elle avait fait un travail fantastique. Quand tu penses que cette fille-là, 5 ans auparavant, chantait au match des étoiles de la Ligue nationale à Philadelphie, là, c'était quand même... C'est bien le match des étoiles de la Ligue nationale, mais on ne parle pas tout à fait du même calibre d'événement. Puis je me souviens, le lendemain, j'étais allé l'interviewer avec Marie-France Bazot, et pour qu'elle nous parle justement de sa performance et tout. Et puis elle était descendue dans le lobby, et René Angélil nous avait expliqué qu'elle pouvait pas nous donner d'entrevue parce qu'elle devait préserver sa voix. Alors elle a répondu à nos questions, mais uniquement il y avait aucun son qui sortait, mais on lisait un peu sur ses lèvres ce qu'il disait. Alors moi qui travaillais pour un journal, c'était parfait, je pouvais l'assister, mais Marie-France qui se faisait de la radio, c'était plus difficile.
Pas une grosse entrevue. arriver à radio, non, c'est sûr.
Ben, bon, on pouvait le raconter à tout le monde, mais ça avait été quand même un moment assez amusant aux Jeux olympiques.
On prend soin de ses diamants, ben, finalement. Voilà, puis je pense exactement. Que Félix Auger-Aliassime en est un. Là. Tu sais, déjà, son parcours, même s'il est tout jeune, il y a des indices là, clairs. Là. C'est pas tout le monde qui a fait ce qu'il a fait là, à son âge.
Pas du tout. Et donc, il y a un potentiel vraiment phénoménal. Et tu sais, là, c'est un gros tournoi, le tournoi de qualification pour participer au tableau principal de l'Omnium américain. Je pense qu'on mesure peut-être mal l'ampleur de ce tournoi-là. Écoute, il y a 128 participants du côté des hommes, 128 participants du côté des filles. Et là, on joue trois tours. Alors, au premier tour, ben, de 128, on passe à 64. Au deuxième tour, on passe à 32. Puis au troisième tour, les gagnants, ils passent à 16. Et les 16 gagnants, ont une place dans le tableau principal pour le tournoi qui commence la semaine prochaine. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut gagner trois matchs. Il n'y a pas de deuxième chance. Tu perds, c'est fini. Tu retournes à la maison. C'est trois matchs avec beaucoup d'intensité. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, Françoise Abanda qui a gagné son match de premier tour, mais un long duel. Elle a gagné en 3-7 au bris d'égalité, je pense. Bianca Andreescu, l'autre Canadienne qui, elle, a perdu hier, elle aussi, au bris d'égalité en 3-7. Alors, on le voit, c'est un tournoi extrêmement relevé et il se battent pour des évidemment une place pour participer à ce tournoi-là, c'est extraordinaire. Mais on sait aussi que c'est important pour les points au niveau des classements, mais il y a aussi toute la question des bourses, il ne faut pas le minimiser. Les tournois majeurs ont fait des efforts considérables pour augmenter les bourses et bien sûr, ça frappe l'imagination quand on regarde ce que le gagnant du tournoi ou la gagnante du tournoi va toucher. Mais on a fait un effort aussi pour ceux qui se font éliminer dès le premier tour et dès le deuxième tour. Alors vraiment, les montants qu'ils peuvent toucher sont plus intéressants que par le passé. Alors, tu sais, quand tu commences ta carrière, tu as beaucoup, beaucoup de dépenses. Les déplacements, l'entraîneur et tout. Et puis, tout à coup, il faut que tu voles un peu de tes propres ailes. Alors, c'est important aussi pour cette raison-là. Donc, Auger Aliassime et Denis Shapovalov, on va continuer de les suivre. Aujourd'hui, ils ne jouaient pas. Théoriquement, ils doivent jouer demain, j'imagine. Et pour le match de deuxième tour, et ça va être assez intéressant de suivre ça.
Un mot sur Ignacio Piatti, joueur de la dernière semaine dans la MLS. Puis, je vais poursuivre une discussion déjà entamée avec quelques autres collaborateurs. On était justement rendu là à la question que tu me posais dans un message écrit aujourd'hui. Piatti, oui, mais à quel prix? Puis on a l'impression de connaître la philosophie de Joey Saputo par rapport au gros salaire en MLS. Est-ce qu'on la connaît vraiment ou qu'en-t-il, tu penses, par rapport à Piatti?
Oui, on la connaît. Je pense qu'on la connaît. Je pense qu'on peut dire sans crainte de se tromper qu'il n'y aura pas de joueurs à 4 ou 5 millions de dollars à Montréal. Si c'était le cas, je serais extrêmement surpris. Mais maintenant, tu sais, j'écoute tout ce débat-là autour de Piatti. Puis, regarde, c'est l'évidence même que c'est un atout extraordinaire pour l'Impact, Ignacio Piatti. Là. C'est le joueur. Bien et oui. Là, il est dans une période absolument exceptionnelle. Il représente magnifiquement l'équipe et tout. Mais, tu sais, l'Impact ne lui a pas encore accordé un contrat. Et ce qu'on ne sait pas, c'est combien il veut et pour combien d'années.
Et ça, c'est la question. Bon, puis, on ne sait pas comment il gagne non plus. Parce que, comme Jérémy Filosan me disait hier, lui, il a le privilège de ne pas dévoiler son salaire. On sait que le salaire minimum qu'il gagnerait, c'est 400 000, mais il gagne probablement plus que ça.
Oui, et ça, c'est un des problèmes avec Major League Soccer, c'est qu'au niveau de la transparence du côté des salaires, il y a encore, on en sait pas mal, là, mais il y a encore un petit peu de zone d'ombre, semble-t-il, parce que comme tu le dis, tout le monde dit qu'il gagne plus que ça, mais personne sait exactement c'est combien. Alors ça, moi, je trouve que c'est une donnée importante de l'équation, parce que c'est facile d'une part de dire, oui, l'Impact doit signer Piatti, c'est nécessaire. Bon, bravo, on ne peut pas être contre ça, là. Il est bon, puis c'est un élément essentiel de l'équipe. Mais d'un autre côté, quelles sont ses exigences salariales? Il a 32 ans. S'il demande plusieurs années, c'est combien? Est-ce qu'il demande un contrat de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Est-ce qu'il demande 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions? T'sais, on ne le sait pas. Et moi, je pense que tant qu'on ignore ces paramètres-là, c'est difficile de dire oui, l'Impact doit absolument le signer. Dans le moment, c'est lui qui a le gros bout du bâton dans les négociations parce qu'il est là. Et c'est le fer de lance de l'équipe. Les gens l'aiment et avec raison. C'est magnifiquement bien intégré à la ville, à l'équipe. Il représente bien les couleurs de l'Impact. Bravo.
Les joueurs semblent l'aimer, oui.
Ben oui, ça, en ouais. plus. Ben ouais. C'est sûr que les joueurs ont l'air de l'aimer, puis avec raison. Mais tu sais, l'Impact a encore un certain nombre de problèmes au niveau des assistances. Cette année, il n'y a pas eu grand match à guichet fermé là, cette année. Moi, je pense pense que cet été, il y en a eu un. On passe souvent près, à 1000 personnes près, mais c'est pas rempli à pleine capacité. Joey Saputo a déjà dit que parmi tous les clubs de Major League Soccer, c'était peut-être à Montréal que le coût d'entrée par billet était le moins élevé. Alors donc, il y a un budget à gérer. Il y a un budget à gérer, il y a des années à gérer aussi. Et puis, tu sais, dans le soccer, tu peux te dire une chose, c'est que le bassin de joueurs est tellement grand que peut-être que si tu perds un excellent joueur, c'est peut-être plus facile de le remplacer que dans un sport où le bassin est plus limité. Et le hockey en est un parfait exemple.
Tu as tout à fait raison, je
et
crois
ça, ce sont
à
des
ça.
Éléments, ça, qu'il ne faut pas oublier. Faut
je
pas
crois
les perdre
à ça,
de vue.
Philippe, mais en même temps, oui, tout le monde, quelque part, est remplaçable. Là, et je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, l'attachement que tu crées, là, c'est quand même ça, un gars qui a émergé ici.
Oui, ouais, fondamental.
C'est, là, c'est différent. Là, ouais, c'est comme, c'est... T'as vu comment ça fait mal de piquer? Je ne vais pas ramener d'autres histoires. Mais ça, quand tu t'es attaché à quelqu'un que tu l'as aimé, qui t'a fait vibrer, qui t'a fait triper, qui a compté des buts, là, après ça, tu dis bye-bye. Ça passe mal dans le monde.
Ça passe très, très mal. Tu as tout à fait raison de le mentionner. Donc, c'est un facteur très important. Tu as entièrement raison de le mentionner, Mario. Et j'embarque là-dedans à fond la caisse, mais je pense que tout à coup, ce que l'Impact va faire en bon gestionnaire, parce que je pense que ces gens-là, Joey Saputo, Richard Legendre et compagnie, Adam Braz, Nick DeSantis, sont de bons gestionnaires. Mm-hmm. On le voit, ils mènent quand même bien cette aventure-là. Ils vont faire tout à coup l'exercice traditionnel des plus et des moins, et puis tout à coup, ils vont prendre une décision à partir de ça. Et ça, c'est clair que l'aspect que tu viens de mentionner, c'est un gros plus, c'est un gros avantage, mais il y a d'autres aspects aussi par rapport à l'âge, par rapport à la durée, par rapport au salaire. Et ça, ce qui est dommage, c'est que tous les éléments intangibles, c'est-à-dire la place qu'il prend dans l'équipe, son rôle, c'est intangible parce que, bon, ça se mesure pas avec des buts et des passes, mais on le sent, on le sait quand même que c'est extrêmement positif avec Piatti. Ça, on les connaît un peu, ces éléments-là, mais les éléments qui sont cruciaux aussi dans la discussion, c'est-à-dire ses demandes salariales et éventuellement les offres que l'Impact a pu ou ne lui a pas fait encore, on n'en sait pas trop là non plus. Ça, on ignore cet aspect-là. Et moi, c'est pour ça que j'hésite un peu à me prononcer encore, parce que je trouve qu'il manque un élément fondamental de l'équation. Et ça, je trouve qu'à ce moment-là, c'est plus difficile de dire « Oui, oui, allez-y, signez-le absolument. » Oui, peut-être, mais encore faut-il connaître les chiffres.
J'ai bien hâte de voir ça dimanche contre Toronto, parce que là, avec 4 de suite, là, puis je reçois Samuel Piette tout à l'heure. Ouais. Là, c'est,
ben, lui aussi, il a un impact, hein, on le sent dans l'équipe. Et puis, je trouve que il y a comme un... Je vais reprendre le fameux mot que Joey Saputo avait rendu à la mode il y a quoi, 2 ans maintenant, ou 2 ans et demi, le buzz, le fameux buzz. Oui. Là, on sent là, justement avec le match contre Toronto qu'il y a un buzz qui est en train de se créer. Ça a été un début de saison vraiment denti pour l'Impact. Un peu décevant aussi à bien des niveaux. On l'a vu, ça s'est reflété également dans les assistances. Ça s'est reflété aussi peut-être dans le bruit autour de l'équipe et tout. Mais là, on sent qu'il y a vraiment un mouvement et c'est le fun. Ça va être un grand match sûrement dimanche après-midi. Beaucoup d'enthousiasme et c'est bon pour le sport à Montréal. Alors, bravo.
Aucun doute, Philippe. Bonne soirée. On se retrouve vendredi, bien
tout
sûr.
Tout à fait. Salut, Mario.
Bye-bye. Ciao. Dans un instant, Bruno Eppel qui nous analyse les chances de gagner des Alouettes demain contre Winnipeg. Ensuite de quoi, je reçois avec grand plaisir Samuel Piette. J'ai bien hâte de faire connaissance avec lui. Martin Bédard, également des Alouettes, sera là tout à l'heure. Et la bataille des guides avec Philippe Lagut.